Elle est toujours en période d'essai, c'est vrai. Certains la décrivent comme instable psychologiquement. J'ai décidé de ne pas les écouter, de lui donner sa chance. Tout va bien, Angèle?
Je déteste être bipolaire, c'est génial.
Super, super. Et deuxième preuve que vous êtes parfaitement saine d'esprit, vous nous parlez aujourd'hui du rock mexicain.
Bah ouais, on va partir au Mexique.
Mexico, Mexico.
Bon, c'est pas du tout cliché, hein.
J'ai
tué
les auditeurs peut-être hier, mais alors vous, c'est aujourd'hui.
Une deuxième fois, ceux qui étaient encore vivants.
Les Mexicains sont de grands, voire les plus grands auditeurs de musique. C'est le résultat d'une étude de la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Les Mexicains écoutent en moyenne 25 heures de musique par semaine et surtout
mais
du rock.
Pas
il travaille en musique. Il faut dire que le genre du rock a une sacrée histoire dans le pays. C'est une histoire qui est née dans les années 60 et 70 avec l'un des groupes majeurs de ces décennies, la Revolución de Emiliano Zapata.
Ça n'a jamais traversé l'Atlantique.
C'est du rock
un peu folk.
Du rock des années 60.
C'est pas du métal, quoi.
C'est pas du hard rock métal. Alors à cette époque, le pays connaît un véritable Woodstock aussi. C'est le festival rock Ruedas à Avendaro. Nous sommes les 11 et 12 septembre 1971. 300 000 personnes se déplacent et parmi les groupes présents, il y a celui-ci, Los Dog Dogs.
Ça ressemble à du rock, oui.
Ouais. Exactement. Mais peu à peu, le rock devient persona non grata dans le pays. On dénonce sa violence, ses contestations, ses artistes. De nombreux concerts sont annulés. Mais bien heureusement, ça n'a pas arrêté la création musicale locale. Et les groupes de rock au Mexique et les bons sont aujourd'hui nombreux, comme celui-ci, Mana.
Ça, c'est Manu Chao.
Croisé avec la bamba.
Croisé avec la bamba.
Ah, la bamba. Toute une époque aussi. Exactement. Vous vous souvenez, nos premières booms.
Alors, du rock en espagnol, notre oreille n'y est pas forcément habituée, mais certains ont marqué l'histoire du genre. Et oui, c'est le cas aussi de Caifanes, qui n'est pas sans rappeler les saveurs et couleurs du groupe U2.
U2 avec Étienne Dao. Très années 80, ça.
C'est vrai.
Ouais, j'aime bien. C'est barré. Ça me plaît.
Mais dans la musique mexicaine, il y a aussi évidemment José, le Johnny Hallyday du Mexique,
un célèbre
José, célèbre crooner, artiste aux 100 millions de vues, qui est au cœur de l'actualité puisque sa mort a été annoncée samedi dernier et jusque là on n'avait aucune trace de sa dépouille. C'est une sombre histoire d'héritage familial. On soupçonne que ce soit sa fille qui ait volé le corps. Alors il a été retrouvé cette nuit dans un funérarium à Miami. Je vous assure que plus d'informations sont à venir par tous les grands reporters de la rédaction.
Mais comme quoi, c'est normal que ça marche là-bas, parce que le Mexicain est rock à la base. Oui. Quand on voit les histoires de Rosé, on voit que c'est dans leur gène, finalement, le rock'n'roll. Cette transgression. Pierre Arditi, le rock mexicain. Est-ce qu'en rentrant chez vous, vous allez tout de suite télécharger?
Non,
ça m'emballe pas les masses. Ça rappelle un peu la musique du Club Med pour les gentils, machin. Non, moi, je suis un pur et dur, vous savez.
C'est quoi?
Moi, le rock, bah, c'est Elvis Presley, c'est...
One for the money.
Oui, je suis désolé. C'est Bill Haley, c'est Gene Vincent, c'est Eddie Mitchell, c'est Johnny Hallyday, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Après, ça devient c'est la musique à l'eau de rose. Ça, c'est José, on l'a même pas entendu d'ailleurs. José,
c'est vrai, mais on pourra le mettre.
Voilà, oui,
Une autre fois.
Ça va, non, mais ça va. C'est pas grave, je vous aime bien quand même. Mais enfin, franchement, je passerai pas une soirée avec ça. Avec vous, sans doute, mais pas avec
vous. Calmons-nous. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Jérôme Lacroix, escuchavos. Je sais pas comment on dit. Bref, on vous écoute.
Escuchavos. Mais c'est effrayant. Il y a encore des gens qui écoutent. Alors, fini, ils sont partis. Ils sont allés dormir.
No sé,
señor. Le lama toujours faire ça. Oui, d'accord.
Oh, si on commence à citer Hergé, on monte en gamme. Vous avez une question vache, Jérôme?
Non, je n'ai aucune question vache.
Bernard qui est talentueux, mais agaçant. Moi, quand hors antenne, je me livre à des confidences sur mon chat. Moi, mon chat, il passe sa journée à regarder par la fenêtre et il miaule comme un fou. parce qu'il voit les oiseaux, mais il peut jamais les choper. C'est dans ses rêves qu'il les chope.
Et ben, quand je dis ça, tout le monde s'en fout. Et vous, Bernard, vous en faites un roman qui va encore être un best-seller. Comment vous faites? J'aimerais bien pouvoir capitaliser sur mes anecdotes sur les chats. Alors, depuis la parution des fourmis, vous êtes l'un des romanciers, on l'a dit, les plus lus en France, traduits dans le monde entier, notamment, j'ai lu, en Russie et en Corée du Sud, où vous êtes là un auteur culte. Pourquoi dans certains pays comme ça, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud?
En Corée du Sud, d'abord, j'ai un super éditeur. Vous savez, souvent, la réussite d'un livre, ça vient aussi de l'éditeur. Et il faut avoir l'humilité de le dire. Et c'est un pays où ils lisent énormément. Et ils sont curieux de tout ce qui est nouveau. Ils ont un passé affreux. L'histoire de la Corée est terrible. C'est un pays qui a été victime d'invasions permanentes parce qu'ils ont comme voisins les Chinois, les Japonais et les Russes. C'est vraiment pas de chance. Mais du coup, ils ont développé une sorte de passion pour le futur, pour les nouvelles technologies. Et donc, ils ont trouvé dans mes livres une sorte d'appel à une vision différente du futur qu'ils ne trouvaient pas dans la littérature classique.
Voilà. Les Coréens, mais vous aussi, allez adorer Sa Majesté des Chats. Alors Bernard Werber, des fourmis aux chats, on sent votre passion, votre fascination pour les animaux. Je voulais revenir sur la préface. Vous attribuez au chat Pythagore, un des personnages du livre, ce chat connecté à Internet, on l'a dit. La phrase suivante: tout être qui cache son anus peut raisonnablement être considéré comme suspect de vouloir dissimuler ses vrais sentiments. Est-ce à dire que l'homme est fourbe, à l'exception des naturistes?
Regardez quand même, tous les animaux exhibent leur anus, mais probablement d'ailleurs pour envoyer des odeurs de communication avec leur espèce, notamment je suis ouverte à toute rencontre, je pense. Alors que nous, on met des parfums artificiels pour troubler le message. Mais chez les animaux, visiblement, il n'y a pas de pudeur. Et ça a peut-être un sens. Peut-être que ça leur apporte quelque chose, cette absence de pudeur.
Dans votre encyclopédie du savoir relatif et absolu, page 239, vous rappelez que les chats ont été utilisés à des fins militaires. On le savait pour les chiens, les chevaux ou encore les pigeons. Mais pour les chats, ça a été un échec. Racontez-nous en quoi les chats sont différents.
Alors, en 1961, la CIA a voulu utiliser un chat comme espion. Donc, ils ont mis des micros dans ses oreilles. Ils ont mis une batterie dans son ventre et une antenne dans sa queue. Et ils l'ont dressé pour qu'il aille dans l'ambassade de Russie. Et le chat est rentré dans l'ambassade de Russie. Et il est ressorti parce qu'il n'a rien trouvé à manger. Et il s'est fait tout de suite écraser par un taxi. Et la CIA n'a pas voulu renoncer. Donc, ils en ont fait encore une dizaine. Et ça a coûté 50 millions de dollars. Ils ne sont jamais arrivés à avoir des informations de l'ambassade de Russie avec des espions chats.
Nicolas Caro.
En revanche, et ça a marché cette fois-ci, les chats ont été utilisés comme boucliers contre les Égyptiens.
Oui.
C'est ce que vous racontez dans le livre.
Les chats ont été vénérés en Égypte pendant au moins 3000 ans, jusqu'à l'an moins 500 avant Jésus-Christ, où il y a eu cette fameuse bataille de Péluse, c'est-à-dire c'était les Perses. Dirigé par le roi Cambyse II qui envahissait l'Égypte, il n'arrivait pas à prendre l'Égypte, et à un moment quelqu'un leur a dit il vénère les chats, alors il a attaché des chats vivants sur les boucliers des soldats et les soldats égyptiens n'ont pas osé tirer des flèches, et c'est comme ça que l'Égypte a été envahie par les Perses.
Alors Bernard Werber, vous nous avez décrit tour à tour la formidable intelligence des fourmis, la prodigieuse intelligence des chats. Laissez-moi vous présenter la stupéfiante intelligence des varocs. Diplômée de la prestigieuse Polytechnic School of Jean-les-Pins, Eva brille chaque après-midi dans la séquence du quiz qui l'oppose à l'invité. Alors la dernière fois, le principe assez simple, du moins le croyais-je. Hein, je lisais la bio d'une personnalité, il fallait me dire simplement si cette personne s'appelait François ou Xavier. Donc deux possibilités, François ou Xavier, écoutez la réponse d'Eva. Acteur dans la série Pas de pitié pour les croissants, Eva Rock.
Cabu ?
Cabu, Corbier, c'est proche.
Je sens Bernard Werber assez serein avant d'entamer le quiz. En hommage à vos fourmis, Bernard Werber, en hommage à vos félins, dans votre dernier livre, Sa Majesté des Chats, chez Albin Michel, on a décidé de faire un quiz animalier. C'est un vrai faux, c'est chacun son tour, chaque bonne réponse vaut un point. Un indice pour Eva, aucune réponse n'est Cabu. Eva Roff, si vous êtes un homme et qu'au Brésil vous êtes piqué par l'araignée banane, vous risquez d'avoir une érection. Vrai ou faux, Eva?
Mais comment voulez-vous que je réponde à cette question, quoi?
C'est un vrai sujet,
c'est génial, question.
Faut déjà que je m'imagine en plein...
Vrai, faux ou cabu?
Oh, je dirais vrai.
Mais vrai, oui, mais oui. Ah, ça vous plaît, cette histoire d'araignée banane?
Mais oui.
Le venin de cette araignée banane augmente la production d'oxyde nitrique. C'est un vasodilatateur provoquant une érection. Ne cherchez pas à vous faire piquer par elle, ça peut entraîner aussi des asphyxies ou des douleurs atroces, voire la mort. Donc,
ah oui, donc on ne connaît pas l'effet sur une femme, par exemple. Voilà.
Ah ben là, il ne faut pas essayer du tout, puisque ça n'a aucun intérêt. Autant nous, il peut se passer quelque chose de positif, autant vous, seule la mort vous attend. Attention, une question, trois propositions, vous répondez ensemble. Le wombat, petit marsupial très mignon, vit en Australie. Quelle est sa particularité? Trois propositions. 1. Il est le seul animal à faire des crottes carrées. 2. Il est le seul animal à ne jamais boire. Ou 3, il est le seul animal à avoir suivi tous les conseils télé des Varocs depuis qu'elle fait de la radio.
C'est pas possible qu'ils boivent pas.
J'ai cru de suivre les conseils télé des Varocs.
Et les deux autres réponses m'ont l'air peu probables.
Ouais. Et pourtant,
les crottes carrées.
Bonne réponse. Taisez-vous, Eva. C'est notre invité qui a pris la main. C'est notre invité qui remporte le point. Les crottes cubiques. Il en profite pour les empiler et mieux marquer ainsi son territoire. Il fait du Tetris avec ses crottes. Il peut produire une centaine de petits excréments carrés en une nuit. Il est productif, le wombat. Sachez que le koala, vous disiez tout à l'heure que c'était pas possible, ne boive pas. Le koala ne boit pas. Les feuilles d'eucalyptus lui suffisent.
Oui, il prend l'humidité dans les feuilles d'eucalyptus.
Ah oui, tout à fait, mais il ne boit pas du coup. C'est incroyable.
Il y a de l'eau qui rentre dans son corps.
Ah oui, il y a de l'eau qui rentre dans son corps, évidemment. Bernard Werber, attention, cette question va vous départager. Pour communiquer la nuit, les harengs ont un système de sonar totalement identique aux chauves-souris. Vrai ou faux ?
Vrai.
C'est faux.
Ils utilisent...
c'est pas
non,
piqué
c'est
des
pas hannetons. Les harengs utilisent la lumière. Ils ont... Vas-y.
Alors, si vous voulez contester, ensuite je vous donnerai la réponse.
Hein. Les harengs sont connus pour péter.
Et c'est bonne réponse d'Alain Siroux. Un point sur un point bonus. Ah, écoutez bien.
Des petites bulles qui explosent.
Ils utilisent les flatulences pour se parler. C'est la, c'est la plus ancienne académie des sciences en Europe, la Royal Society britannique, qui a publié l'étude scientifique. Les chercheurs ont remarqué qu'en aquarium, les harengs commencent à produire des sons très aigus sous forme de paix quand venait le soir. Et plus ils étaient nombreux, plus le nombre de bulles de gaz augmentait. Les poissons des autres espèces ne pouvant entendre cette fréquence, on en a déduit une forme de communication.
J'ai bien fait de venir, on apprend des choses.
Apprendre quelque chose sur un animal, la dernière verbère. Là, je dis bravo nous.
Est-ce que vous pourriez écrire un livre sur les harengs?
Maintenant que vous me le dites, c'est
une
peut-être
nouvelle,
une idée. Là.
Bah oui.
Mais là, demain, les harengs et Sa Majesté les harengs, je vais y réfléchir.
Mais je crois que votre éditeur va trembler encore une fois de plus. À moins de mettre un hareng nymphomane et narcissique.
Je pense que ça va marcher en Bretagne.
Il est quand même vice-chef adjoint délégué par intérim du service culture d'Europe 1. Mais Mathieu Charrier, c'est avant tout ce qu'on appelait, avant l'affaire Weinstein, un homme à femme. Notre invité lundi Mathieu. Dernier, la chanteuse Rose, en a fait les frais.
C'est bon là ?
Un peu plus fort du coup,
Un peu plus fort, hop.
Encore un, voilà, très bien.
C'est bon là ?
Ah ben ouais, mais alors si tu veux, ça bouge ?
Ah c'est pour ça.
Oh putain, mon dieu.
Ah, faut remonter sur le...
Bah c'est, là, c'est monsieur qui gère.
Oui, bon, on ne passe pas ce que vous faites avec nos invités. Gérard Darmon, je vous présente Mathieu Charrier. Mathieu Charrier, vous avez visionné 250 bandes-annonces de films.
Oui, vous voulez savoir.
Et alors, donnez-nous les 10 meilleurs, ça suffira.
Les 10 meilleurs. Déjà, il y a plusieurs comédies dont on va entendre parler, dont la salle a beaucoup réagi. En fait, pour expliquer en deux mots, c'est donc le congrès des exploitants de salles. Ouais. Vous avez tous les exploitants de tous les cinémas français qui sont invités à Deauville par les éditeurs de films. On leur montre tous les films qui vont sortir dans les prochains mois, toutes les bandes-annonces, en leur disant prenez-les pour les diffuser dans vos films. Donc il y a un gros enjeu parce que c'est en partie grâce à cette journée que vous allez avoir ou pas dans le film à côté de chez vous tel ou tel film plutôt qu'un autre. Donc c'est vrai que je voyais par exemple le film de Gérard Darmon, demain il sort sur un certain nombre d'écrans parce que
ça a été s'est joué ce jour-là.
Et ça s'est joué en partie sur ce congrès. Alors sur les 250 bandes annonces, il y en a une qui a fait mourir de rire toute la salle et j'avoue qu'on
que c'est un film avec Gérard Darmon.
Qu'on se demande ce que ça va donner. C'est un film qui s'appelle Tout simplement Noir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film-là.
Non.
C'est un film incroyable où c'est un acteur-réalisateur qu'on ne connaît pas, un noir donc, qui veut organiser une marche contre le racisme et qui va aller voir plusieurs acteurs connus, Joy Starr, Fabrice Eboué, Jonathan Cohen, Rabzi Bedia, pour leur dire les gars, venez marcher avec moi, il faut qu'on organise un truc. Sauf qu'entre les Noirs, les Juifs, les Arabes, personne va s'entendre. Et ça donne des scènes, je vous assure, on a eu plein de petits extraits pendant le congrès, ça donne des scènes absolument incroyables. Ça sort en avril prochain. Ça peut être le film un peu phénomène de l'année, vous savez, à la Bon Dieu. Voilà.
Et ça sort quand il y a une date ?
Avril prochain, je viens de vous dire. Si vous m'écoutez, ça sera plus simple.
Et vous donnez tellement d'infos, vous parlez tellement vite, vous parlez plus vite que moi. C'est vraiment record, on n'a jamais vu ça.
Ensuite, il y a une autre comédie qui a fait beaucoup, beaucoup rigoler. C'est une comédie qui s'appelle Forte, portée notamment par Valérie Lemercier. Et Mala Bedia, qui est la sœur de Ramzi Bedia, qui est une jeune humoriste un peu enveloppée, qu'on commence à voir beaucoup dans pas mal de scènes, et qui veut se mettre au pole dance, en résumé. Donc elle est venue présenter le film dans la salle, elle a fait du pole dance, elle a rigolé. Enfin bon, là aussi, Forte, je crois que c'est pour mars prochain. Je pense que vous allez en entendre parler. Et puis une autre comédie qui fait envie, là ça c'est un petit peu plus proche de nous, c'est en novembre prochain, ça s'appelle Joyeuse Retraite avec Michel Larocque et Thierry Lhermitte. Et vous savez, c'est ces gens qui partent à la retraite, qui se disent ah c'est bon, eux ils veulent aller s'installer au Portugal. Ils disent c'est bon, on va se couler douce au Portugal. Sauf que pas du tout, parce que c'est le moment où vos enfants vous disent ah ben tu fais plus rien le mercredi, tu vas t'occuper de tes petits enfants. Ah ben tu sais, la dernière elle est malade, tu peux venir la garder une semaine à la maison. Voilà, c'est toutes ces comédies là qui font un peu envie. Et par ailleurs, je le glisse, on a appris que venait de commencer l'écriture de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 3. Là, c'est parti. Je pense que
c'est lancé.
On est parti pour une petite série de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Dites-moi, j'y pense comme ça, incidemment, vous n'avez pas de nouvelles du prochain OSS ?
Ah non, pas encore. Ça, ils nous ont pas montré d'image. Ah. Le tournage devrait commencer là, dans les semaines qui viennent.
Alors, Gérard Darmon nous dit j'adore, mais surtout, que foutent les réalisateurs de OSS ? Pourquoi Gérard Darmon n'est pas dans OSS ? Il serait quand même exceptionnel dedans.
J'adorerais, oui. Mais en plus, avec Jean, avec Dujardin, on s'est promis de travailler ensemble très, très vite, très bientôt. Il faut un bon sujet. Là, je pense qu'il y en a bien. Après, ça dépend de
pour le numéro
4, réalisateur, des producteurs. Des,
pour le quatrième, si le 3 marche bien.
Vous avez oublié dans vos bandes annonces celle de Kéron, qui sort en avril, Brutus, avec l'ermite qui m'y a renvoyé.
C'est vrai, exact. Voilà. Nouveau film de Cairon, après voilà, les mauvaises herbes.
Qui sort exactement.
Il y en avait 250, je peux pas tous les faire.
Oui, si. Vous venez quand même de perdre 2 points, Mathieu Charrier.
Alors, Mathieu
Charrier, voilà, lui, vous pouvez, vous pouvez mettre une
c'est
croix.
C'est dommage
sur son
parce qu'il y avait un petit museau d'avance. Et là, pour la dernière ligne droite, le dernier Open Beach.
Ouais. Si j'étais un animateur bienveillant, je me contenterais de vous féliciter, Mathieu. Mais vous me connaissez, voici la question vache de l'autre chroniqueur, Jean-Philippe Ballas.
Europe 1 vous paye pour voir des grandes annonces, Mathieu Charrier.
Alors vous savez quand même que, non, parce que c'est la grande blague, quand je rentre de ce congrès, bah ça va, t'as rien foutu à Deauville. Mettez-vous dans une salle enfermée avec 1000 exploitants de salle pendant des heures et des heures à regarder 250 bandes annonces à la suite. Et vous verrez qu'on devrait doubler mon salaire.
Oh là là.
Le pauvre.
C'était pas crédible une seconde. Vous m'avez parlé, mais il y a plein d'autres films attendus aussi. Hein.
Ah pardon,
il y a plein d'autres films attendus aussi. Il y a Lambert Wilson qui va incarner le général de Gaulle, il y a le nouveau James Bond, il y a Mission Impossible 7 et 8, il y a Le Mans 66 sur la rivalité
de Ferrari. Mais calmez-vous,
on sait que vous y étiez.
Vous avez bien bossé, on le dira au DRH d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas, une réaction chic et sport à la chronique de votre concurrent quand même. Cette annonce cet été, une annonce que je n'ai pas beaucoup appréciée, votre prochain one-man show serait aussi le dernier. Est-ce que c'est possible de mettre un veto ou de faire on peut se cotiser sur change.org, une pétition? C'est pas possible, ça, Patrick. Pourquoi ça serait le dernier?
Eh ben c'est exactement la réaction que j'attends, justement, qu'on me demande pourquoi.
Non, mais parce qu'il y a des humoristes qui s'essoufflent, mais vous, le dernier spectacle était tellement, on peut le dire, il était dingue le dernier spectacle. Vous êtes sur la pente encore ascendante. Pourquoi arrêter maintenant?
Mais parce que ça fonctionne, parce que justement, parce que la
vous allez vous ennuyer.
Spectacle de trop, peut-être, et de se dire, voilà. Et puis, alors c'est vrai que le thème des adieux, je me rends compte, puisqu'on a commencé à l'écrire, là, vraiment, il est construit et tout, mais là maintenant on rentre dedans. C'est un vrai thème, donc ça vaut le coup de vivre ces adieux quand on vous dit non, pars pas, plutôt que dégage ou je viens pas. Il vaut mieux partir avant qu'on vous fasse partir, quoi, vous voyez le principe.
Ouais,
et c'est vrai, c'est pour ça que j'y crois.
Vous y croyez, mais je pense qu'au fond de vous, vous avez déjà même trouvé le titre du spectacle d'après.
Oui, c'est vrai, je l'appellerai Oups. Je m'a trompé. Oups, je m'a trompé. Non mais si vraiment à un moment, je crois que c'est Christopher Robach qui est mon agent et mon ami, mais surtout mon ami, ça voudrait dire qu'il bosse pas assez bien, on sait pas quoi dire.
Oui,
alors, non, surtout mon agent, bah alors je suis pas ton ami alors. Et qui me disait, bah je sais plus ce qu'il me disait parce que on parlait de quoi.
Ouais. Si jamais vous n'arrivez pas à partir, il y aura un autre
ouais, il me parlait justement, alors je crois que c'est Nana Mouskouri qui avait dit adieu, adieu, adieu. Et elle s'emmerdait tellement à la maison qu'elle a dit, mais c'est pas parce que j'ai dit adieu qu'il faut plus que je remonte sur scène. Et elle est remontée sur scène.
Évidemment.
Voilà. Mais non, ouais, là vraiment, c'est pas ni un coup, un effet de pub ou quoi que ce soit. Je le savais déjà même quand je saluais les dernières fois dans le spectacle d'avant en me disant, waouh, ça va être dur, ça va être très dur. Et je crois que je ne soupçonne pas l'émotion que ça peut provoquer. Mais les
pour
adieux,
vous et pour
c'est
nous,
vraiment...
Patrick Timsit, tous les jours, à cette heure-ci, pour se détendre, un petit quiz thématisé oppose notre invité à Eva Rock. Et en hommage au film J'irai où tu iras, vous êtes le père de Leïla Bekhti et Géraldine Nakache, on fait un vrai faux sur les relations père-fille. Des relations pas toujours faciles.
Mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard.
Parfois, pas toujours simple d'élever une fille. Vous répondez chacun votre tour, chaque bonne réponse vaut un point. Patrick Timsit, la fille aînée d'Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, est entrée au couvent des Ursulines, Ursulines Covent, à la Nouvelle-Orléans, à l'âge de 16 ans. Elle y est toujours aujourd'hui, vrai ou faux?
Moi je dirais vrai. C'est pour se débarrasser, pour être libre de pouvoir vivre.
C'est vrai.
Parce que vivre cette vie sous le regard de sa fille, je préférerais qu'elle soit au couvent. Parce que là, si elle est dans la même maison, et dans les mêmes petits-déj, et dans les mêmes soirées, à un moment, il y a quelque chose de raté.
C'est vrai. Il aurait dû l'y mettre, si j'ose dire. Par contre, la fille de Peter Falk, l'acteur de Columbo, est détective privée.
Ce qui n'a aucun rapport.
Oui, mais si. Oui. Le lien père-fille.
Oui.
Mais Eva, je vous interdis de critiquer mon quiz.
Pardon.
Sinon, il est excellent ce quiz.
Oui, très, très, très bien. Vraiment très bien.
Oui.
Allez-y, posez votre question.
Eva Rock, la grenouille de Darwin d'Amérique du Sud naît par l'anus du mâle de l'espèce. Vrai ou faux?
Je sais, mais je vous aiderai pas.
Non, mais non. Je dis non.
Ah oui, non, effectivement.
Mais faire des questions
elle
comme
a une
ça.
Spécificité, c'est pour ça qu'on pose la question. Elle naît par la bouche. La femelle abandonne des œufs fécondés dans la bouche d'un mâle qui n'est d'ailleurs pas forcément le père biologique. Il les garde jusqu'à éclosion dans la bouche.
C'est un bon papa.
Fascinante nature. Attention, tous les deux. Une question, trois propositions. Vous répondez ensemble. Jonathan Soriano joue au foot en Autriche à Salzbourg. Un soir, il arrive en retard, seulement à la mi-temps du match, car il est allé assister à la naissance de sa fille. Que s'est-il passé ensuite ? Trois propositions. 1. Il a mis 3 buts. 2. Il a appelé sa fille Goal. 3. Il est resté sur le banc de touche et il a eu bien les boules.
C'est difficile hein, de savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur de foot.
Surtout autrichien. Ouais,
c'est vraiment compliqué. Hein. Ah, vraiment. Non, moi je le vois bien marquer 3 buts.
3 buts.
C'est vraiment. En tout cas, il en a rêvé. Il rêvait sur le banc de touche qu'il allait marquer 3 buts en disant go.
Ah, je pense qu'il est resté sur le banc de touche.
Ouais, ben c'est Patrick Timsit qui remporte le point. Ah, non ouais. Seulement il a mis 3 buts en 45 minutes, mais en plus il a offert la victoire à son équipe. En plus, Salzbourg, je crois que c'est une équipe de Ligue 1 en Autriche, donc c'est pas un match de campagne. Quoi. C'est vraiment une très belle affiche. Égalité dans ce quiz. Ah, j'aime bien comme ça, distribution égale des points. C'est et il n'y a pas de déçu, l'invité.
Il
n'y
a pas une
content.
Question pour départager.
Non.
J'aimerais
non.
gagner, moi.
Oui.
Je laisse la victoire.
Oh, comme c'est mignon.
Ouais,
non,
je
non,
laisse
non,
la
moi, je vous l'offre.
Oh, c'est gentil. Merci. La petite pilule en question, d'abord, elle est valable pendant combien de temps dans le corps ?
Elle reste 24 à 48 heures. Personne ne me demande comment on l'évacue.
Sans doute, non ?
Ben voilà, vous avez trouvé.
Une certaine idée du chic français, c'est ça aussi, l'équipée sauvage. Et Jérôme, aujourd'hui, vous revenez à vos fondamentaux, j'ai envie de dire, fini la proctologie, bonjour le foot.
Je vous emmène en Argentine, un pays traversé en ce moment par un bruissement, un petit bruissement. Non, en fait, c'est un tonnerre qui fait ça.
Diego Armando Maradona.
Des milliers de fous du foot et ils sont nombreux là-bas pour une folie furieuse depuis presque un mois parce que, bah oui, il est de retour au pays. Diego Maradona, ô combien icône en Argentine, nommé entraîneur-manager d'un club de La Plata, près de Buenos Aires, qui se morfond actuellement dans les bas-fonds du classement. Il y avait 30 000 personnes dans le stade, c'est ce qu'on entend, un stade plein pour un simple entraînement quand il est arrivé, les télés argentines en direct. Alors oui, Diego, c'est un dieu dans son pays. Pour lui, l'Argentine, pas que celle du foot, perd totalement pied avec le réel. On est dans l'adulation divine pour de vrai, parce que oui, des milliers d'Argentins forment un cheptel, le cheptel des brebis de Diego. Ils forment l'Iglesia Maradoniana, l'église maradonienne.
Attention, happening sur europe1.fr.
Jérôme Lacroix vient de mettre son maillot Maradona.
Mes chers amis, nous sommes tous réunis dans cette maison de Rosario, la ville mère patrie de notre communauté. Recueillons-nous pour le récit du Notre Père, enfin du Notre Diego, le Diego Nuestro.
Diego Nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda.
Notre Diego qui est sur les terrains, que ta main gauche soit bénie, que ta magie arrive jusqu'à nous. Fais-nous nous souvenir de tes buts sur la terre comme au ciel. Pardonne aux Anglais comme nous pardonnons à la mafia napolitaine. Ne nous laisse pas être pris au hors-jeu et délivre-nous de Pelé.
Diego, Diego.
Eh oui, tout ça est véridique. Il existe une vraie congrégation avec ses cultes, l'église maradonienne. Elle revendique plus de 100 000 fidèles partout dans le monde. Fondée en 1998 par deux journalistes argentins, vous l'imaginez, fou de la star. Alors, faut imaginer des messes. Ils sont tous debout, en maillot de foot, t-shirt ou écharpe à l'effigie, bien sûr, de Maradona, devant la reproduction en miniature d'une église, un peu en carton-pâte, flanquée du numéro 10 tout en haut du clocher, et les fidèles dans des salles transformées en églises qui chantent.
Mais que dit le pape de tout ça ?
Diego, c'est assez rieur.
L'info de votre papier, c'est quand même que le cannabis est dépénalisé maintenant en Argentine. C'est ça l'info, en fait.
Comme toute religion.
Je connaissais cette religion.
Comme toute religion, elle possède ses 10 commandements. Parmi lesquels, déclarer son amour inconditionnel pour Diego et le football, défendre les couleurs du maillot argentin tout en respectant ses semblables, propager les miracles du dieu Diego à travers toute la planète, mais aussi vivre dans le monde réel et garder les pieds sur terre, hein, sait-on jamais.
Ils n'ont pas l'air de vivre vraiment dans le monde réel, ces gens-là, si ?
Oui et non. La religion a instauré son propre calendrier. Nous ne sommes pas en 2019, mais en 59, après Diego, puisque leur an zéro, c'est 1960, l'année de naissance de Maradona. Tout ça est très logique. Noël et le Nouvel An tombent chaque 30 novembre, le jour de naissance de Diego Maradona. Alors l'église maradonienne, elle a ses fidèles, elle a ses apôtres, elle a ses prêtres. Mais quelques précisions, il n'y a pas de fanatiques dans cette religion au deuxième, voire troisième degré. Mais pour Maradona, la passion est telle en Argentine, et ça se cristallise ici, que cette église, elle a récemment reçu un rappel à l'ordre du Vatican. C'est ce que vous disiez tellement, elle a
pris de l'ampleur. Alors l'adhésion, c'est pour tout le monde, c'est gratuit. Leur but, c'est pas du tout de singer entre guillemets les vraies religions. Elle vit, c'est assez rigolo, c'est un peu à l'image de Maradona, elle vit cette religion grâce au sponsoring d'un site de jeux de casino en ligne. Donc voilà, allez en paix les amis. Et Médigo.
Mais une question, Jérôme, quelle est leur théologie ? Après, si on s'est bien comporté durant sa vie, on va au paradis de Diego, on retrouve Diego, et qu'est-ce qui se passe ?
En même temps, on regarde certains matchs de Diego, on y est au paradis.
Oh, c'est bien répondu. Gérard, Diego Maradona, pour vous, ça reste un des, peut-être le meilleur joueur de foot de tous les temps ou
Un grand, très, très grand footballeur. Moi, c'est comme les Beatles, c'est les Stones. Moi, je préférais Pelé, mais bon.
Ah, c'était plutôt Pelé ?
Oui.
Je vous recommande le dernier documentaire qui est sorti sur Maradona, qui est extraordinaire. Vraiment,
vous n'avez pas le titre par hasard, comme vous êtes spécialiste média,
peut-être
vous auriez...
Peut-être Diego, non ?
Peut-être tout simplement Diego ?
J'ai un doute. J'ai un doute que ça
soit
ça.
Vous avez un mini-doute, comme
j'ai un mini-doute, je vais vérifier.
Zimbine, ça s'appelle Zimbine.
Comment vous aviez préparé votre chronique ?
Avec des bidons d'eau bénite et du gros sel.
Ah, Neymar fait ça aussi, c'est toujours gagnant. Découvrez notre nouveau concept, les invités qui se vannent entre eux par son interposé. Tome 1. Team Seed contre Darmon.
J'ai un mini doute.
Il est connu pour ça, hein, Team Seed. Il a un mini doute. Toutes les femmes le disent.
Je dis, on n'arrête pas le progrès. Hein. Et je vous propose qu'on reste dans cette dynamique de gaieté. D'ailleurs, je ne vous le propose pas, je vous l'ordonne. À mon commandement, riez.
Oui, oui, non.
Oui, gaieté obligatoire, c'est l'étonnante idée d'une municipalité en Vendée. Bonjour François Coulon.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Dans la série des arrêtés municipaux passablement loufoques, voici le petit dernier en date qui nous vient donc de Vendée. Un arrêté qui impose d'être en joie. C'est le maire des Essarts en Bocage qui a dégainé.
Oui, une commune de 9000 habitants près de La Roche-sur-Yon, dans laquelle chaque administré a intérêt à afficher la banane à partir de samedi et pour toute la semaine. Interdiction de faire la tête, de diffuser de la musique triste ou de raconter des histoires qui se terminent mal. Monsieur le maire impose à tous de nager dans la béatitude et d'être contagieux. Freddy Riffaut.
On va forcer un petit peu les gens à avoir le sourire plus que d'habitude, de 8h à 22h dans la journée si possible, et puis de faire sourire 10 personnes dans une journée, parce que on a l'impression que le sourire, on est nombreux à en avoir besoin et que ça fait énormément de bien. On voit déjà le sourire qui s'affiche dans nos boulangeries, sur les pâtisseries par exemple, c'est très rigolo. Ça donne un cookie avec le smiley de dessiner dessus. Je pense pas être un petit rigolo, en revanche je suis certainement un éternel optimiste, malgré bien évidemment toutes les difficultés qu'on a tous. Hein. Mais bon voilà, sur une semaine on va essayer de penser à autre chose et de faire penser à autre chose ceux qui en ont bien besoin.
En fait, François, vous avez mené l'enquête en fin limier à qui on ne la fait pas. Le maire des Essarts se paye un peu beaucoup de pubs à pas cher avec son décret tordant.
Et effectivement, Mathieu, comment faire parler du festival de musique Ville en Joie ? Eh bien, tout simplement en signant un décret, tout ce qu'il y a de plus officiel, pour imposer cette félicité pendant une semaine. Avouez que c'est réussi, la preuve, ben nous en parlons. Et c'est loin d'être une première.
Et vous avez poursuivi vos investigations, François, dites-nous tout.
Alors figurez-vous que ça a commencé en 1954 à Châteauneuf-du-Pape où le maire a interdit les ovnis qui étaient très à la mode à l'époque. Plus récemment, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le Loiret a pris un arrêté interdisant aux habitants de sa commune de tomber malade. C'était pour dénoncer la pénurie de médecins ruraux, je suis sûr que vous vous en souvenez. Et puis on a eu droit à un arrêté Viagra pour sauver une école de village menacée de fermeture, etc. Si, si, vérifiez. On approche la dizaine et les préfets, il faut le dire, se montrent jusqu'à maintenant plutôt indulgents vis-à-vis de ces arrêtés abracadabrantesques, osons le mot.
Eva Rock ?
Mais moi, j'ai une solution pour rendre les gens heureux. Ils écoutent l'équipe sauvage de 16h à 18h
sur Europe 1. Un peu d'autopromo.
C'est la meilleure des solutions.
On est d'accord.
Je vais le dire au maire.
Bonne réponse, François Coulon. Je compte sur vous pour propager la bonne parole. Un peu de prosélytisme nous fera du bien. Merci,
je
François Coulon. Il est à cette émission ce que Superman est aux autres super-héros. Un super-héros encore plus puissant. Avec 20 points, il fanfaronne en tête du championnat des meilleurs chroniqueurs d'Europe 1. Donnez-moi un M, donnez-moi un B, donnez-moi un I. Voici Anis Mbida. Mais Superman n'en reste pas moins un homme, avec ses désirs, ses failles, pour ne pas dire ses vices. Alors, évidemment, s'agissant de sa vie privée, on ne portera pas de jugement de valeur, mais bon, ne serait-ce que pour quelqu'un qui défend l'environnement, jouer avec de la nourriture, ça ne se fait pas.
Avec la bonne saucisse, là, qui brille tellement elle est grasse, t'appuies dedans, ça gicle.
Désormais, Anis Mbida sera évacuée avant la rubrique gastronomique d'Olivier Pouls. Visiblement, ça lui donne de sales idées. Alors Anis, avec quel sujet allez-vous une fois de plus rafler la mise aujourd'hui ?
Peut-être pas avec une saucisse. Hein. Je vais essayer de parler d'un sujet un peu plus sérieux. Allez, un petit peu de contexte.
C'est sérieux la saucisse.
Surtout quand elle est bonne et qu'elle est bien
grasse. Oui, bon, bah oui, on a compris.
Et quel lui !
Il est fou !
Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le mois dernier, il y a eu des funérailles, une commémoration de la disparition d'un glacier en Islande. La semaine dernière, la même opération a eu lieu en Suisse, toujours pour la disparition d'un glacier. Et il y a quelques jours, du côté italien du Mont Blanc, là, on a carrément fermé les routes, évacué les refuges, parce qu'il y a un glacier qui risque de s'effondrer. Hein. 250 000 mètres carrés de glace qui sont en train de se déplacer de 50 à 60 cm par jour, ce qui est considérable. Et donc, évidemment, tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Donc, on se dit que, bah, collectivement, on a quand même tous un petit peu de mal à changer un peu la donne. Ça fait bientôt 2 ans hein, que les accords de Paris ont été signés. Donc, des scientifiques sont montés au créneau, se sont dit, bah, on va trouver une solution beaucoup plus radicale, notamment pour ralentir cette fonte des glaciers. Et la première solution, c'est de saupoudrer des grains de silice blanc, une sorte de sel, justement. Ces grains-là vont se recouvrir toute la surface des glaciers et réfléchir la lumière du soleil et donc protéger un peu, ça fonctionne un peu comme un parasol, protéger...
Je pensais qu'on salait pour déneiger, moi. Non, on ne sale pas pour déneiger.
Quand on sale pour déneiger, c'est parce que c'est pour empêcher la neige de s'accumuler et de faire de la glace. Là, c'est
monsieur,
c'est pas
j'ai
du
réponse
sel.
À tout. Il me plaît bien. C'est pas pour me déplaire.
J'ai commencé par dire que c'était des grains de silice, donc c'est plutôt proche du verre.
C'est pas du sel. Alors,
non, c'est pas du sel, mais ça ressemble. Visuellement, ça ressemble. C'est pas du sel.
J'ai jamais tort. Alors là,
il a jamais tort.
Oui, mon stylo.
Axel de Tarletan, un stylo à Patrick Timsit, ce qui peut lui profiter. Moi, j'ai une question pour vous. La silice,
donc
comment,
c'est -3, hein,
comment
c'est
on le met? On le met avec des hélicoptères?
Par exemple, on peut utiliser des hélicoptères, mais sinon
Patrick, qu'est-ce que vous en pensez?
L'erreur, le carbone et tout ça.
Vous rigolez.
Je rigole pas.
Mais non seulement on va recouvrir, mais on veut aussi reconstituer la banquise. Et là, c'est un autre système qui demande aussi également beaucoup d'énergie. Là, l'idée, c'est de pomper l'eau glacée qu'il y a en dessous de la banquise et de la remettre au-dessus de la banquise avec des brumisateurs géants. L'eau, comme ça, quand elle va tomber, elle va geler et donc reconstituer la couche de glace.
Vous riez,
mais on est à une catastrophe écologique considérable.
C'est écrit, vous riez, parce que personne ne riait, là. Hein, mais vous riez, là. Je vous entends rire, là. Personne
quand
ne
on
n'aura
plus de planète, où
sont-ils? Ah non, il nous fait passer pour Trump. Mais
il est méchant. Il est très fort. Il joue sur la culpabilité.
-2 qui donne -6, hein, parce que c'est moi qui donne les...
Ça va nous coûter combien tout ça? Ça va être extrêmement cher, des brumisateurs géants sur la banquise, excusez-moi.
Mais... Oui, mais moi j'ai envie de poser la question, ça va coûter combien si jamais des torrents sont asséchés? Ça va coûter combien s'il y a des tsunamis? Ça va coûter combien si les océans remontent? Parce qu'aujourd'hui on parle de 5 à 7 milliards de dollars, évidemment, ces projets vont coûter extrêmement cher.
Vous êtes en dépression. Vous savez, c'est la nouvelle dépression, j'ai un sujet dans le prochain spectacle là-dessus. Cette dépression comme ça, on va tous crever, mais c'est dans moins de 10 ans et tout ça. Non mais, ce qui est peut-être vrai, hein, attendez, je ne sais pas.
On va tous crever,
là,
ça c'est sûr.
Y a une... Ah oui, non, dans moins de 10 ans, j'avais fini, oui. Et c'est vraiment... ça existe. Hein. Ça s'appelle la dépression. Enfin, ça, on soigne une nouvelle sorte de dépression qui est la dépression de... Dans 10 ans, tout est fini.
Moi, j'essaie d'apporter un peu d'espoir pour dire que c'est pas, tout n'est pas terminé.
Mais vous avez raison.
Avec justement, on a peut-être des solutions pour ralentir les effets parce que, collectivement, on a peut-être un peu de mal à changer nos comportements au quotidien. Donc, il y a des scientifiques qui essaient de trouver des solutions radicales pour accélérer. Parce que là, on parle de quoi? On parle de 2 degrés, de diminuer de 2 degrés la température des glaciers. 2 degrés, c'est exactement le projet des accords de Paris. Donc, on cherche à nous aider, nous, petits bonhommes qui avons du mal à changer nos comportements avec des solutions parfois beaucoup plus radicales. 70% de l'eau douce sur Terre vient des glaciers et vient de la banquise. Donc, c'est très important pour nous. D'autres humains.
Merci beaucoup, Anissé Mbida. Eva, comment vous l'avez trouvé?
Psychopathe.
Moi aussi.
J'aime beaucoup votre nouvelle barbe. On dirait le Brahman Boudou. Ça fait très plaisir.
Mon nouveau surnom, j'aime bien.
Le Brahman Boudou.
Pierre Arbiti, que vous retrouvez en ce moment au Théâtre des Nouveautés dans Compromis. Très beau moment de comédie où vous donnez la réplique à Michel Leeb. Au fait, je me disais, vous ne devez pas pleurer en coulisses avec Michel Leeb. Comment ça se passe?
En coulisses, on ne pleure pas, mais sur scène non plus.
Ah oui,
non, pas.
C'est sûr, mais ça continue.
On est à la limite absolue.
Vous avez déjà eu des fous rires ou des...
Ah oui. Quand on commence à faire les ringards, quand on commence à être dans la comédie, là, là, c'est épouvantable. En plus, il fait dire « Tu m'amates !» Ça supporte.
Comment est vraiment Pierre Arditi? Qui est-il pour vous? C'est la question qu'on est allé poser aux gens. Ce n'est pas un micro-trottoir, toujours honteusement monté pour flatter l'ego de l'invité, mais notre micro-trottrash. Comme un micro-trottoir, mais pas monté. On a tout laissé en vrac.
Bah, bien sûr, je connais Pierre Arditi.
Ouais, bel homme, beaucoup de charisme et puis un passionné.
Je l'ai vu 3 fois au théâtre, il fait du Guitry notamment, il a fait des pièces contemporaines, moi j'adore.
Le côté très masculin aussi qu'il a, je sais pas, peut-être une force quelque part aussi.
Arditi sur scène, c'est une voix, c'est une prestance.
Pierre Arditi, c'est pas un...
Dans les séries, non. C'est un acteur.
Non, c'est pas un acteur. Vous savez par exemple, chez Thierry Ardisson, il y a des invités. Et bah lui il fait partie des invités.
Tu confonds avec Laurent Baffy toi.
Non mais non, Laurent Baffy c'est un acteur.
Moi je trouve qu'il a beaucoup d'humour, il est fin, il a une très bonne diction. Non, c'est un excellent acteur. Hein.
Donc un homme engagé, un homme profond et c'est vrai que c'est agréable.
Vous avez clairement une ouverture avec Madame.
Pierre Arditi. Il n'a jamais été aussi gentil, ce micro-trottrage.
C'est ce que les gens disent. Hein. Oui. On montre rien du tout. Hein. J'en sais rien. On n'a pas trouvé de gens qui n'aimaient pas Pierre Arditi. C'est déjà ça.
Il y a quand même des gens qui pensent que l'essentiel de ma carrière se fait comme invité de Thierry Ardisson. Bon, alors, quand même, c'est pas inintéressant.
J'allais vous poser une question sur le cinéma. Je trouve personnellement qu'on ne vous voit pas assez au cinéma.
Oui.
Vous dites, cette citation peut expliquer ça. Vous dites sur le théâtre, je mourrai au théâtre. Le théâtre, c'est ma maison. Quand j'entre en scène, j'entre chez moi. Vous avez quand même une préférence pour la scène.
Pas une préférence, j'y suis né, je vais y mourir au théâtre. Hein, voilà. Bon, ma vie a commencé avec le théâtre. Voilà. Après, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup plus de théâtre que de cinéma, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai 2 César et pas de Molière, mais ça n'a pas d'importance. Non, je veux dire que... je tourne encore, moins. Vous savez, c'est un métier qui est à la fois admirable et très terrible. C'est qu'à un moment donné, plus on avance dans le temps, c'est-à-dire plus on vieillit, et puis les emplois sont moins nombreux quand on avance.
Vous voulez dire que vous ne recevez pas de scénario très intéressant ?
Si, j'en reçois, voilà. Enfin, je tournais plus à l'époque Rennais, ou Lelouch, ou Claude Berry, tous ces gens-là.
Mais Nicolas Bedos aujourd'hui,
oui,
vous serez
la fille de
Nicolas.
Génération.
Alors Nicolas, ouais. J'ai la chance que Nicolas me fasse appel à moi, j'aime beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup de talent, mais vraiment, le prochain film,
La Belle Époque
est un film absolument formidable.
Ça, c'est une belle rencontre, hein, Pierre, celle de Nicolas Bedos.
J'adore. J'ai bien connu son père, je connais bien son père, je l'aime beaucoup. J'adore. Il est très... On ne connaît pas bien Nicolas Bedos. C'est un homme très sensible, très fin, très intelligent, brillant, même brillantissime. C'est un vrai auteur, c'est un vrai metteur en scène et c'est une personnalité qui me touche beaucoup parce qu'il est beaucoup plus secret, beaucoup plus mystérieux qu'on ne le croit et il masque ça derrière une espèce de causticité ou d'acidité comme ça qui est très à la mode. Il le fait très bien d'ailleurs, mais en réalité c'est quelqu'un de beaucoup plus attachant que ça et beaucoup plus fragile.
Et on l'avait vu à travers son premier film, Monsieur et Madame Adelman.
Oui, formidable. Ouais.
Effectivement, très beau premier film. Il incarne l'hédonisme avec un grand H. Si on devait le résumer à un son, ce serait... En effet, rares sont les individus à avoir déjà 3 bouteilles de Chablis au compteur avant 18h.
Oh, 3 bouteilles, il exagère.
Oui, disons deux. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu. Bonjour Gérard Darmon. Bonjour tout le monde.
Délice in extremis, chaque jour, vous vous adressez à nos auditeurs tête en l'air qui ont totalement oublié de passer faire les courses et de songer à une recette pour ce soir. Au menu du jour, non pas une spécialité marocaine comme je l'ai annoncé, puisque vous avez changé au dernier moment. Vous êtes comme ça, vous êtes plein de surprises, Olivier Pouls.
J'ai changé d'avis hier soir, figurez-vous, en ouvrant mon frigo et en voyant ce que j'avais dedans. Il se trouve que j'avais quelques figues, que j'avais du gingembre et que j'avais du citron vert.
J'imagine que c'est donc la saison des figues, c'est ça ?
C'est la fin de la saison des figues, mais elles sont encore remarquables. Je pense que vous avez même un figuier chez vous, Gérard Darmon, c'est vrai ?
Oui, dans mon jardin, oui.
Mais comment vous savez ça ?
C'est pas à Paris, mais c'est ce que je viens de lui dire. Genre, je vous connais bien quand même. Je vous suis depuis longtemps. Vous avez un figuier, non ? Bah, oui, je viens de te le dire.
Bon, alors l'idée, c'est que les figues que j'avais viennent du sud, donc elles sont un peu plus en avance. Et là, elles jolies, étaient vraiment très mûres. Et donc, ces figues très mûres, il fallait un peu les contrer en leur donnant du peps. Et le peps, je suis allé le chercher dans le gingembre et dans le citron vert. Mmh. Donc, l'idée, c'est de couper les figues en morceaux, grossièrement, en 4, on va dire, de rajouter des petits morceaux de gingembre qu'on a là aussi émincé très finement en brunoise, un filet de jus de citron vert et le zeste aussi du citron vert. C'est intéressant de le conserver. Et on fait compoter tout ça tranquillement pendant un quart d'heure, 20 minutes dans une poêle à feu doux. Un tout petit trait de vinaigre de Xérès à la fin pour redonner encore un petit peu de tonus. Et puis voilà ce que vous avez.
Oh, c'est hyper bon, Olivier.
C'était vraiment très bon.
Hein. Franchement, très bon.
Gérard Darmon a aimé Gérard Darmon et son nouveau tube. Elles sont jolies les figues de mon pays. Il dirige la revue Ciel et Espace. Ses connaissances en astronomie font de lui l'homme de la situation pour nous parler d'une pratique de plus en plus courante, donner son nom à une étoile. Vous allez voir Bernard, physique quantique, astrophysique, Alain est impressionnant.
Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. J'ai gardé un éclat dans la tête, gros comme une tasse. Le seul truc pour retenir cette moumoute, c'est un aimant magnétique logé à l'intérieur du lobe droit de mon crâne. Alors, je vous laisse agir à votre idée. Est-ce qu'il y a du rumsteak?
Oui, non, là, non, c'est vrai qu'il a quelques heures de vol, Alain Siroux, maintenant, mais vous allez voir, il reste, non, il reste performant. Alain, pendant que vous vous remettez de vos émotions,
il est malade.
Still alive.
Racontez-nous comment on fait pour donner son nom à une étoile.
Bon, alors, pour tout vous avouer, en dehors d'être malade, je suis parti perdant quand j'ai appris que Bernard Werber était votre invité.
Pourquoi ?
Parce que Bernard a son nom dans les étoiles depuis, depuis déjà un petit bout de temps, puisqu'il y a l'astéroïde Werber, numéro 381048, donné par un astronome amateur qui s'appelle Jean-Claude Merlin. Et avoir un caillou de quelques kilomètres de diamètre qui tourne entre Mars et Jupiter.
Entre Mars et Jupiter. Ouais.
Dans la ceinture d'astéroïdes, c'est un petit peu le cadeau du petit prince. Quoi. C'est vraiment...
Je remercie Merlin l'Enchanteur. Et c'est un astronome qui m'a fait ce cadeau. Vous savez, par moments, ça vous arrive sur la gueule, comme les météorites. Ouais. Et je trouve ça fabuleux. Parce que moi, je vais crever, mais le météorite va continuer de tourner. Et ça, je trouve ça formidable.
Et c'est pour l'éternité,
Bernard. Attendez, Alain Bernard, je vous pose la question. Cet astéroïde, on peut l'observer ?
J'ai d'ailleurs amené...
Vous l'avez déjà vu ?
Il m'a envoyé des petit film où on voit l'astéroïde, en gros c'est un point blanc qui traverse d'autres points blancs.
C'est votre point blanc, c'est important Bernard. Alors comment on fait si on veut donner son nom à une étoile ?
Il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on découvre soi-même une comète ou un astéroïde, c'est son nom, on porte son nom.
Automatiquement,
la comète Noël.
Il faudrait déjà que j'achète une lunette.
Voilà, exactement. Ou alors vous avez un astronome amateur ou un professionnel qui décide de vous faire ce cadeau. C'est-à-dire, effectivement, parce qu'il vous aime, parce qu'il a récompensé sa femme, sa maîtresse et son chat. Ben après, il pense à vous. J'ai pensé au chat, Bernard. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas acheter un nom d'étoile.
Ça,
on ne peut
bien.
Pas acheter un nom sur la Lune, même si certains vendent des propriétés sur la Lune.
Mais c'est pas possible, c'est territoire international.
Mais ça a beaucoup de succès. Celui qui a fait ça a gagné beaucoup d'argent. Mais ça n'est pas du tout autorisé, puisque, en fait, seul l'Union Astronomique Internationale, l'UAI, c'est-à-dire l'espèce de d'ONU des astronomes, peut donner des noms dans une commission que j'adore. C'est son nom, c'est la Commission de la Nomenclature Céleste. Et elle donne
ça,
des noms...
Ça, c'est sérieux ?
Oui, elle donne des noms de cratères, de plaines, etc. sur Vénus, Mars, les cratères... sur les satellites de Jupiter ou de Saturne. Simplement, à chaque fois qu'une sonde passe et découvre de nouveaux objets. Et là, les règles sont très précises, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas nommer n'importe quoi. Vénus, par exemple, c'est uniquement dédié aux femmes.
Ah bon ?
C'est une planète dédiée aux femmes. Sauf que la montagne la plus importante porte le nom de Maxwell, qui est un physicien anglais. Mais vous trouvez Maria Callas, Coco Chanel, etc., etc. Des milliers de noms.
Tout ça sur Vénus.
Bon. Et effectivement, quand on va sur Mars aujourd'hui, on explore Mars avec des robots qui roulent dessus. Il y a plein de choses à nommer, des petites collines. Des creux, des cratères, etc. Et on discute, Mars, alors c'est plutôt le lieu des dieux de la guerre. Des noms qui doivent être acceptés par tout le monde. Il faut que ce soit d'abord harmonieux. Il ne faut pas que ce soit trop long. Il faut aussi que ça ne ressemble pas à des choses trop connues. Donc interdit animaux domestiques, par exemple. Ah. Interdit des marques commerciales. Interdit des individus dont les activités politiques sont bien connues. Il faut être au moins mort depuis 100 ans pour avoir son nom dans les étoiles. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Donc en ce moment, il n'y a que deux possibilités, si je puis dire, de pouvoir franchir cette petite barrière. La première, je vous l'ai amenée. Je vous ai amené
Je vais remplir la fiche.
Non, voilà, alors ce n'est pas une fiche du tout.
Elle est faite déjà.
Elle est faite.
Dans quelques mois, va partir une sonde à destination de Mars, qui s'appelle Mars 2020. Et vous pouvez aujourd'hui aller sur un site, qui est le site de la NASA, où vous inscrivez votre nom. Ouais. Votre nom va être inscrit sur une petite puce qui va faire partie du voyage de la sonde et va se poser sur Mars l'été prochain.
J'adore.
Donc Mathieu Noël sera sur Mars à la fin de l'été prochain.
On va mettre le lien de ce site, évidemment, sur le compte Twitter et sur Europe 1.fr.
Et ça, c'est gratuit, c'est votre boarding pass pour Mars. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, l'Union Astronomique Internationale pour fêter ses 100 ans d'existence, propose aux gens de nommer une exoplanète et son étoile. Cette exoplanète s'appelle HD 8574. Bon, c'est pas très sexy. Elle est dans la constellation des Poissons à 150 années-lumière d'ici. Et il y a un concours qui vous permet aujourd'hui de chercher un nom qui pourrait peut-être être donné. Alors, vous avez le droit d'imaginer ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un lien entre la planète, l'exoplanète, pardon, la planète qui tourne autour de son étoile, et l'étoile. Alors, je ne sais pas, pensons par exemple à Quasimodo qui tournerait autour d'Esmeralda.
Voilà. Vous êtes coquine.
Et vous avez le droit d'imaginer ce que vous voulez de ce côté-là.
Et on note que les gens de la NASA ont de l'humour, puisqu'en bas à droite de ce petit coupon que vous m'avez donné, il y a écrit le nombre de points, de miles que vous gagnez. Et là, 313 586 649 miles. Ça, c'est pas mal. Ça,
c'est
ça, on peut tous voyager en business. Moi qui suis très fort en ping-pong, vous nous révélez aujourd'hui qu'il existe un sport encore plus dur physiquement, c'est le décathlon.
Oui, et d'abord je voulais vous faire entendre ceci. La liesse de milliers de personnes au stade de Talence en Gironde. On est le 16 septembre 2018, alors c'est pas Neymar ni Mbappé, c'est pas du foot qui les rend dingues, ces spectateurs. C'est du décathlon ce jour-là. Ils écarquillent les yeux devant Kevin Mayer, français, 26 ans alors. Il vient de battre le record du monde de cette discipline. Qui n'est pas la plus grand public, elle n'a pas l'intensité d'une finale de 100 mètres, mais ceux qui la pratiquent aujourd'hui sont les porteurs d'un héritage multiséculaire. Alors déjà, de quoi parle-t-on ? Déca, 10, en grec, athlos, compétition ou épreuve, 10 travaux donc à accomplir dans le décathlon d'aujourd'hui. Est-ce que vous les connaissez, ces 10 épreuves ? Alors, pas facile.
Même non, mais il doit y avoir un 100 mètres.
Alors oui, 100 mètres.
Oui,
le poids.
Le poids,
100 mètres, le poids, la longueur, la hauteur, le 1500 mètres.
Très bien, très bien.
La perche.
Le 1500 mètres, la perche.
Et le javelot.
Le javelot.
Oui, les javelots.
Alors, on a un disque bol.
Eh ben, je crois qu'on a tout dans le désordre. Je resitue un peu
non,
tout
1500,
ça.
On a dit le 1500 mètres.
Oui, on a bien indiqué qu'il est dit.
4 courses, 100 mètres, 400 mètres, 110 mètres et
il nous manquait,
plus 1500 mètres. 3 sauts, soit en hauteur, soit en longueur, soit à la perche. 3 lancers, lancer de poids, lancer de javelot, lancer de disque. C'est donc titanesque, je ne sais pas comment, quel mot employer, des épreuves en compétition officielle. Je vous l'apprends peut-être. Elles sont toujours concourues dans le même ordre. 5 le premier jour, 100 mètres, longueur, poids, hauteur, 400 mètres.
Ah, mais je pensais que c'était une par jour, moi.
Non, 5 le second jour, c'est sur 2 jours, 110 mètres haies, disque, perche, javelot, 1500 mètres. Des épreuves qui, pour la plupart, étaient déjà là lors des Jeux Olympiques antiques.
Oui, vous nous parliez d'héritage tout à l'heure, on parle donc d'un héritage grec.
Le premier décathlon, Olympie, 8 siècles avant Jésus-Christ, lors des Jeux antiques. Alors, seuls les Grecs, les purs, les hommes militaires pouvaient y prendre part au passage. Héritage malheureux, pas de décathlon aujourd'hui pour les femmes dans les grandes compétitions. Elles disputent, entre guillemets, seulement l'heptathlon.
Ouais.
Très bien,
et donc, Pierre, vous m'avez l'air sacrément calé en sport.
Hein, j'aime bien ça.
Oui. Passionnant.
Oui, oui, j'aime bien ça. Je ne pratique pas beaucoup, mais je pratique énormément à la télévision.
En Grèce antique, les épreuves sportives sont sacrées. On court, on saute, on lance pour honorer les dieux. Alors on trouve les origines du décathlon dans la mythologie. Certaines histoires mettent en scène le héros Jason et ses argonautes, tous un peu une bande de super-héros. C'était eux qui y prenaient part, à l'initiative d'une reine nommée Hypsipyle, peut-être en échange de somptueux cadeaux. La mythologie a des incertitudes. Pas étonnant en tout cas que le décathlon du coup soit l'une des plus anciennes épreuves au programme des JO modernes. Ça y est, depuis 1912 dans sa forme actuelle.
Un mot de la mécanique du décathlon aujourd'hui. Chaque épreuve rapporte des points, c'est comme ça que ça
Alors,
fonctionne.
Alors l'outil pour le calculer, ça s'appelle une table de cotation. C'est très très précis et sophistiqué. Par exemple, si vous courez le 100 mètres en 11 secondes 24 centièmes, ça vous rapporte 808 points. Si vous lancez le poids à 13,80 m, c'est 716 points. C'est vraiment très précis, etc., etc. Les sommes des épreuves s'ajoutent. Kevin Mayer, dont
j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué que le système de points de l'équipée sauvage. Et Dieu sait qu'on n'y comprend rien et qu'un jour sur deux, on n'arrive pas à compter les points.
Kevin Mayer, dont je vous parlais au début, il a glané en 2018 9 126 points. C'est le record du monde. Le décathlon aujourd'hui, c'est lui, Kevin Mayer, qui en est l'incarnation mondiale. Super beau gosse, il est blond, les yeux bleus, etc. Il raconte, on me demande souvent si je suis pas surfeur, il aime bien présenter avec ça. Il aime faire résonner les Marseillaises et il aime bien faire résonner ça aussi. Ah oui, il est agaçant, voilà. Il a tout, Kevin Mayer. Voilà, il sait aussi jouer du piano.
Ah, c'est lui qui joue ?
Ce morceau, Rivers Flows in You, qui fait partie de la BO du film Twilight. Il est agaçant.
Mais il m'agace.
C'est lui qui joue,
oui.
Non.
Il joue ça, oui, oui.
Un homme s'apprête à se dresser contre le lobby du nucléaire. Il sera notre ultime concurrent aujourd'hui, et peut-être notre ultime concurrent tout court, car voici un journaliste qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et de penser ce qu'il dit. Preuve de son toupet légendaire, cet édito au vitriol l'année dernière dans la matinale d'Europe 1.
Le nucléaire est devenu une technologie très compliquée, toujours dangereuse et beaucoup trop coûteuse. Eh ben écoutez, arrêtons les frais. Merci Axel de Tarlé pour le Zoom Echo. Vous étiez attentivement écouté par le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui est avec vous.
Ah, c'est cool. Et le PDG d'EDF. Axel, aujourd'hui, le PDG d'EDF n'est pas là, mais il y a Patrick Timsit qui est chaud bouillant. Alors, c'est presque pire pour
chaud
vous.
Patate.
Chaud patate. Le PR, dites-nous, vire au cauchemar. Bruno Le Maire juge les dérives inacceptables.
Oui, ben alors l'an dernier, on parlait des difficultés de l'EPR en France. Vous savez, celui de Flamanville, il devait démarrer en 2012. Le PR, c'est le nouveau réacteur génial de quatrième génération qui ne démarre jamais. Il est très écolo de ce point de vue. Hein. Il devait démarrer en Finlande en 2009.
Mais est-ce qu'il est déjà chargé?
Ben, on n'arrive même pas à le construire.
Non, mais c'est alors, dingue. Il n'y a aucun EPR qui est en fonctionnement.
Si, alors justement, en Chine, eux, ils y arrivent. Mais c'est une claque de plus pour les Français.
D'accord.
Voilà.
C'est, oui, on attention, c'est de qualité chinoise?
Non, c'est un...
Parce que ça, ça peut foutre la trouille. Hein. Ça, c'est... Déjà un pull...
C'est une technologie bah non,
centrale
française.
Nucléaire chinoise.
Les Chinois...
Sans être... C'est vraiment... hein, ça se trouve plus vite que qu'un autre pull. Hein. On le sait, ça. Hein.
Alors, les Chinois,
ça
eux, ils l'ont fait démarrer, le PR, mais nous, ouais. On n'y arrive pas.
Ouais.
Et alors là, on s'est dit, tiens, allez, on va refaire un, on va retenter une troisième fois notre,
et
notre chance.
Et ça va donner quoi, leur PR au Chinois? Hein, il va rétrécir de partout, ça va exploser.
Ah ben non, mais là, le lavage est
trous,
impeccable.
Voilà, on va gagner.
Le PR ne marche pas. Donc là,
ah non, le français, moi, j'y crois.
Le français,
j'y crois, mais il faut prendre son temps, monsieur. Il faut prendre son temps.
Alors, combien de temps, Axel? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, donc, là, en Angleterre, on a dit aux Anglais, vous allez voir, on va en faire un. Et on vient d'apprendre, donc c'est EDF qui a dit ça, écoute, on est désolé, on a encore des problèmes de terrassement. Alors, ce qui est formidable dans le nucléaire, c'est quand vous avez des problèmes de terrassement, je ne sais pas, vous, c'est quoi, c'est 10 000 euros, 100 000 pour un problème nucléaire, quand il y a des problèmes de terrassement, la facture est 3 milliards. Donc,
ah,
vous voyez,
ah oui, je suis pas sûr. Ça fait cher le terrassement. Hein.
Attends, j'ai la patate, hein, c'est ça. Ça. Hein, vous voyez bien, non, mais il va être bon ce spectacle. Comment je vais en faire un autre après.
Mais
non, bien sûr.
Il n'y aura pas cette place en deux heures.
Bien sûr que non.
Et donc là, c'est deux réacteurs qu'on doit fabriquer pour
vous
les Anglais.
Vous êtes au courant de ma maladie, Axel. Donc vous ne pouvez pas m'en vouloir. Vous voyez bien, je suis en plein stress.
Non.
Tout le monde, je ne respecte rien.
Tant que vous me mettez des points à la fin, que vous
ne pouvez pas m'en vouloir. Je vais vous en mettre des points parce que vous l'avez bien coupé, Axel. Je pense qu'il n'est jamais au bout de la chronique.
Il a même pas abordé l'intro. Il n'a pas fini l'intro.
Il n'en est pas l'intro en déjà 6 minutes. Donc
catastrophe.
On est en train de donner des armes à tous les anti-nucléaires, puisqu'on leur apporte la preuve que d'abord le nucléaire c'est très compliqué. La preuve c'est qu'on n'arrive pas à construire ce réacteur en France. Et deux, surtout c'est très cher.
Rien à dire. Il me regarde comme si qu'est-ce qu'il a à dire.
Mais Axel,
il a besoin de moi même.
Parce que l'électron qui va sortir de cette future centrale, si on arrive à la construire, ouais, sera facturé 100 euros le mégawattheure. Or aujourd'hui avec l'éolien et le solaire, vous êtes à 50 euros du mégawattheure. Donc si vous voulez, même les pro-nucléaires qui disaient mais le nucléaire c'est fantastique parce que ça n'émet pas de CO2, donc c'est bon pour la planète, eh bien même là, on leur dit mais oui, mais un, ça ne marche pas, et deux, c'est très cher.
Et leur expression c'est j'ai un mini doute.
Eh ben voilà.
Excusez-moi, j'ai un mini doute.
Exactement.
Et le mec, c'est le petit mec qui, depuis le début de la réunion, et aujourd'hui, c'est un petit mec, mais il a 20 ans de plus, hein, puisque ça fait 20 ans qu'il dit excusez-moi, j'ai un mini doute, et on lui a jamais donné la parole.
Voilà,
c'est ça. C'est ce qui nous met dans la merde. Alors que moi, il n'y a pas besoin de me la donner. Hein,
ça, c'est bon.
Je suis en dépresse, il faut que je consulte.
Est-ce que c'est pas trop tard pour arrêter? C'est-à-dire qu'on a investi déjà tellement dans ces EPR que maintenant, si on arrêtait tout, ça serait un gouffre financier monstrueux.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on dit. On disait pour Flamanville, on dit on a déjà mis 3 milliards, on va pas arrêter maintenant, mais Flamanville maintenant ça coûte 12 milliards, ça démarre toujours pas. Hein.
12 milliards pour rien pour l'instant.
Oui, et d'ailleurs qui va payer?
Pour savoir que justement
les
c'est
Anglais,
trop cher.
On leur a facturé 24 milliards. Je peux vous dire que si ça marche pas, ils vont pas les payer les 24 milliards. Donc qui va payer? On
T'as
est en train
les
de
faire payer d'avance.
Et ben
non, mais sérieux, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête?
Je veux dire qu'avec vous aux finances, l'économie française serait mieux tenue.
Et donc on commence à faire le parallèle avec le Crédit Lyonnais.
On fait un parallèle avec le Crédit Lyonnais, oui.
Voilà, bah oui, qui ça s'est très mal terminé. Vous savez que justement la partie nucléaire d'EDF va être nationalisée, un petit peu comme, vous savez, la bad bank du Crédit Lyonnais là, après la faillite, et on a dû payer 15 milliards, et là, on se demande si ça terminera pas comme ça.
C'est les contribuables, c'est nous qui allons payer tout ça.
Ah bah, si, à la fin, EDF, c'est français.
Mais
c'est
Patrick Timsit plus, quand même, c'est la proportion des moyens.
Ah voilà, c'est voilà,
pas tant mieux. Je me le souhaite. Je me le souhaite, parce que si je gagne plus que vous à Europa, c'est pas mal. Hein, ça voudra dire que je gagne bien ma vie, que je suis heureux, j'aurai pas besoin d'aller sur les marchés. Je veux dire, après la fermeture, hein, bien sûr.
Oui, Axel, un dernier mot.
Mais non, mais j'essaye de mettre une bonne phrase de fin pour clôturer
De toute façon, là, on est à un degré d'improvisation.
Quelle
et de...
chronique.
Il y avait une chronique, vous avez fait une chronique
pas compris, là. Parce que j'ai un mini doute là.
J'ai une
l'impression que Axel n'a rien foutu. Quoi.
Non,
il a pas, on n'a rien appris. Il vient nous parler d'un truc qui ne marche pas, dont tout le monde sait que le nucléaire, finalement, c'est dangereux et qu'il vaut mieux prendre son
mais
temps.
Mais non, celui-là, il n'est pas dangereux, il ne marche pas.
Bah oui, bah voilà.
Celui-là, il est
cool. On aura appris quelque chose. Il ne marche pas, ça coûte cher.
C'est un de nos plus grands comédiens. En 50 ans de carrière, il a dit des choses très profondes, d'autres plus borderline.
Je continue de me toucher du doigt. C'est une sensation absolument délicieuse et très fatigante.
Pierre Arditi passe l'après-midi sur Europe 1. Vous l'avez dit, Pierre, et je ne sais même pas comment vous avez pu
c'est
le dire.
C'est horrible. Mais comme vous... il a été chercher une connerie pareille.
Pierre, vous avez deux passions. Le théâtre et le vin. Molière et Olivier Pouls. Faites entrer Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre Arditi.
Comment ça va, ah ben cher ça Olivier
va bon. J'ai apporté des grattes.
Oui, j'ai vu, mais je n'y touche pas. Voilà, ça tu peux te les... Ah ben, voilà.
Moi, je dis, à l'heure de goûter, c'est quand même franchement mieux qu'un
oui,
pitch.
Oui, enfin là, non. Il est 23h50, donc quand même, ça fait... Non, ça va rester sur l'estomac, il n'en est pas question.
Pierre Arditi, vous avez joué dans une série qui s'intitule Le sang de la vigne, et c'est pas un hasard, le vin, c'est vraiment une des passions de votre vie.
Oui, tardive d'ailleurs, parce que... Enfin, non, tardive, non, oui, j'aime le vin, oui, j'aime ça.
Comment vous avez découvert comment on devient passionné de vin un jour?
Je ne sais pas comment on devient passionné de vin. Ça ne vient pas de mes parents qui, eux, buvaient du vinaigre. Quand j'en ai bu un tout petit peu, je me suis dit, si c'est ça le vin, j'en boirai jamais, parce que c'est épouvantable. Et puis, j'ai fait mes débuts d'acteur à Lyon, et là, évidemment, on m'a fait goûter des choses très simples, d'ailleurs. De très bons Beaujolais, des pots de Côte du Rhône, des pots de Beaujolais, très simplement faits, mais délicieux, ce qu'on appelle des vins de soif, et j'ai commencé à adorer ça. Voilà. Puis
vous après, n'avez bon, pas que bah, des vins de soif dans votre cave, paraît-il, d'après les indiscrétions que j'ai pu avoir.
C'est toujours du vin de soif, mais quelquefois, évidemment, c'est un petit peu autre chose, bien sûr, mais c'est normal.
Olivier Pouls, vrai connaisseur, Pierre Arditi ?
Oui, et je peux en témoigner. On a quelquefois échangé ensemble autour de bonnes bouteilles. Il connaît très bien le vin, il connaît très bien les vignerons et il aime les vignerons. Et je pense que ça, c'est très important de la part d'un amateur de vin, c'est de comprendre d'où ça vient.
Mais oui, je les aime bien parce que je les admire. Il y a quelque chose, je cours toujours derrière. Qu'est-ce qui vous fait courir ? Qu'est-ce qui vous fait courir ? Ce qui vous fait courir, c'est la peur de la mort, le fait d'être vivant, d'être en vie comme ça. Et quand je suis confronté aux vignerons, justement, eux, ils sont beaucoup plus calmes que moi parce que la vie n'est pas regardée de la même manière. À un moment donné, ils n'essayent pas d'être plus forts que la vie, c'est la vie qu'ils respectent. Et à un moment donné, quand on boit un verre de vin, on boit l'âme de celui ou de celle qui l'a fait. Donc ça me plaît.
Olivier Pouls.
Oui, c'est surtout un amateur ouvert et éclectique. C'est-à-dire qu'on parlait des grandes bouteilles, il en a, il les connaît, mais il s'intéresse aussi aux petits vins. Et l'autre jour, je l'ai bluffé avec un vin à moins de 6 euros, d'ailleurs.
Ah, formidable, hein.
Et voilà.
Ah oui, oui, formidable.
Pierre Arditi, vous n'aimez pas le... On me crie dans la régie de dire « rappel, avec modération ». Vous n'aimez pas le mot « modération », vous avez un autre mot, oui, vous préférez raison. « Avec raison ».
Oui, raison. Oui, parce que la modération, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un homme modéré. Ce n'est pas intéressant de vivre avec modération. Par contre, la raison, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire là, c'est-à-dire que j'aime le vin passionnément, mais le vin est un ami, il peut devenir un ennemi. Je suis contre l'addiction à l'alcool, bien entendu, mais je crois à la culture de l'initiation. Voilà. Et l'initiation, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, parce que vous ne savez rien, c'est la culture du père. Voilà. Et je crois à cette culture-là. Mon père m'a très bien élevé. Et donc, à un moment donné, pour en avoir fait moi-même l'expérience, d'une manière assez marrante d'ailleurs, quand je suis venu jouer à Saint-Étienne, Don Juan, il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune et pas vilain, j'avais fait une dégustation chez mes amis Guigal de côte rôtie. Je m'étais dit quand même ça, je peux pas cracher. Je suis arrivé, j'étais ivre mort, et j'ai joué donc Don Juan en bulgare, au grand étonnement du public nombreux qui était dans la salle et qui n'a pas bien compris pourquoi subitement je parlais une langue étrangère. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, à un moment donné, je ne laisse pas au vin le droit de prendre ma place. Mais j'adore ça, ça ne m'empêche pas. On peut très bien merveilleusement boire sans se bourrer la gueule.
Seule journaliste de la rédaction équipée de l'oreille absolue, elle nous en met plein la vue à chaque fois, même si certains membres de l'équipe, un peu bas de plafond, ont du mal à se satisfaire de la dimension purement artistique de ces chroniques.
On y parle du fameux Boléro. Savez-vous qu'elle est jouée toutes les 20 minutes quelque part dans le monde?
Wow, moi je pense surtout au droit d'auteur. Hein.
Lorsque je vous en prie, excusez la lourdeur de ce collègue. Je crois avoir reconnu Mathieu Charrier. On est d'accord, c'est lui, hein, il est barbu.
Bien sûr.
Aujourd'hui, à l'occasion du décès de la soprano Jessie Norman, vous nous donnez une véritable leçon.
Non, mais alors je voulais peut-être éclairer peut-être ce qu'est une voix lyrique. Et peut-être vous avez envie de savoir quelle est votre propre voix. Alors d'abord...
Ah oui.
D'abord,
oh sole mio. Non.
Ah, pas mal.
Comment ça, pas mal?
Pour l'ampleur déjà du son, c'est extrêmement
l'ampleur
bon.
L'ampleur du son, c'est
absolument,
bon.
Absolument, la projection du son. Bon, d'abord, on ne choisit pas sa voix. Hein. On peut la développer, mais votre voix dépend de votre morphologie, de votre personnalité. Je dois vous dire aussi qu'il faut en général un minimum de technique vocale pour vraiment découvrir quelle voix on a, parce que c'est très difficile à définir en quelques minutes ou en quelques heures. Il est intéressant de la pratiquer, de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller, d'aller chercher des notes aussi, ça prend plusieurs mois, d'aller chercher des graves, d'aller chercher des aigus, et de ne pas être obligé de forcer. Évidemment, si on force, on peut atteindre des notes incroyablement aiguës ou graves, mais il ne s'agit pas de forcer, il faut quand même que ça reste naturel. Alors, en général, on répartit quand même les voix en quatre catégories, soprano, alto pour les femmes, ténor et basse pour les hommes, donc soprano et ténor, des voix plutôt aiguës, alto et basse, des voix plutôt graves. Mais ça se complique assez vite parce qu'il y a plusieurs types de soprano, par exemple. Oh. Les soprano coloratour, qui sont très rares, sont les voix qui font énormément de vocalises dans les aigus, les suraigus, c'est très démonstratif. Ensuite, vous avez les soprano légers, moins aigus. On a ça beaucoup chez Mozart, dans les opéras de Mozart. Les petites voix comme ça, très très fines. Et puis, vous avez aussi, par exemple, soprano lyrique, donc moins agile, mais plus rond, plus grave. Ou encore, soprano dramatique, là c'est plus sombre, avec des graves puissants. C'était le cas de Jessie Norman, soprano dramatique, comme ici dans Le Roi des Aulnes de Schubert. Vous voyez comme elle descend dans les graves au début et elle a énormément de puissance aussi dans les aigus. C'est ça, soprano dramatique, effectivement.
Et alors, comment on peut savoir, nous, quelle est notre voix ? Dans quelle catégorie on se classe ?
La couleur de votre voix peut donner des indices. Si elle est plutôt claire, par exemple, ou plutôt sombre, si votre timbre est plutôt brillant, vous serez sans doute pour une femme soprano ou un homme ténor. Alors, il y a un autre exercice qui est intéressant aussi, c'est de chanter une liste de notes et de voir à partir de quel moment vous êtes obligé de forcer. Eva, justement, je crois que vous vous demandez si vous êtes soprano ou mezzo-soprano. Vous avez pris des cours de chant
par le passé.
Vous avez pris des cours de chant par le passé. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Très bien. Et donc là, on va avoir une démonstration.
On va pas avoir une démonstration.
On va essayer de savoir.
Mais c'était avant ou après avoir battu Marie-Josée Pérec à la course ? Parce qu'il y a aussi cette légende-là qui court.
Selon les notes que vous arrivez à atteindre, on va voir si vous êtes plutôt soprano ou mezzo-soprano. Il va simplement falloir chanter sans le nom des notes. Les notes que vous entendez ici, ça commence à partir du sol. Allez-y, projetez la note. D'accord.
Ça tombe bien parce que nos auditeurs non plus. Ne peuvent plus. Ils sont tous sur RTL. Attendez.
J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il fallait que je fasse.
C'est pas mal du tout, Eva, parce que vous montez jusqu'au là. Et quand on monte jusqu'au là, alors peut-être avec un peu de difficulté, mais vous êtes...
Il y a un bémol qui m'a surpris.
Elle a raison. Elle a raison. Auquel je m'attendais pas.
Quand on monte jusqu'au là, c'est avec aisance, vous êtes plutôt soprano. Et si vous montez jusqu'au fa, c'est-à-dire deux notes plus bas, on est plutôt mezzo-soprano. Donc vous êtes peut-être...
Vous
avez un peu forcé.
Non mais sérieusement, j'ai un peu forcé, mais parce que ma voix n'est pas échauffée. Et c'est un muscle quand même.
Bien sûr.
C'est comme un cours de sport, il faut que vous en fassiez souvent et tout d'un coup, votre voix prend une ampleur
que vous
n'imaginez
pas. Et puis c'est la façon de
projeter
le son avec une voix très claire comme vous avez fait « ah » ou alors « om » et donner du corps.
Parce qu'en plus, vous chantez bien, vous.
Moi, j'étais alto par le passé.
Merci, Laure Dautrich, vous connaissez la règle, elle peut tomber à n'importe quel moment. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Anne Le Gall.
Bon alors, d'accord Laure, vous avez l'oreille absolue, c'était très intéressant, j'ai appris plein de trucs, mais...
Ah, elle est vache.
Et j'ai quand même une question qui me titille. Est-il vrai qu'on peut casser des flûtes avec sa voix, casser du verre, casser du cristal ?
Alors, la castafiore le fait dans Tintin, non ? Je crois.
Ah oui, voilà.
La castafiore le fait, mais je crois que c'est impossible, sauf à projeter un son avec énormément d'intensité pendant plusieurs minutes et le même son. Donc c'est quasiment infaisable de tenir un son aussi longtemps, humainement, pendant très longtemps, avec une telle puissance. Donc je crois
avec un synthé, peut-être.
Je crois pas que ce soit possible.
Vous voulez que j'essaye ?
Non, merci. Plantu, vous chantez sous la douche ?
Ah, j'adorerais.
Vous avez le droit.
Non, j'ai malheureusement
vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas dans quelle catégorie vous êtes.
Il faudrait tester. Hein.
Je sais pas. Mais Jessie Norman que j'aimais beaucoup. J'en parlais hier avec Barbara Hendricks.
En toute simplicité.
C'est parce qu'on prépare une journée le 10 octobre prochain à l'Opéra Comique pour le lancement de la Fondation Plantu. Et je lui demandais ses impressions sur Jessie Norman. Alors, elle disait que c'était pas la même carrière qu'elle avait fait avec, mais elles se sont croisées et je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment une belle voix, ce qui était le cas de Jessie Norman, comme pour Barbara Hendrix, comment on peut s'exprimer. Et Jessie Norman, quand je l'ai entendue là, dans le morceau que vous avez donné, moi, je la trouve plus émouvante dans les chansons. Elle a fait des chansons avec Michel Legrand. Il y a une chanson hommage à Kennedy qui s'appelle « Celui-là ». Et moi, j'ai encore des frissons, parce que c'est un hommage à Kennedy, et dit par Jessie Norman, avec des musiques et des paroles de Michel Legrand, ça a de la gueule.
J'ai l'impression que Plantu a apprécié. Moi, Laure d'Autriche, j'ai adoré votre chronique.
Merci.
Personnellement, c'est mon avis. Et vous, vous m'avez trouvé comment ?
T'as été brillant, Alain, comme d'habitude.
Moi, c'est Mathieu.